Et Marion, donc tout de suite, tu reçois deux des 12 co-autrices du livre « Nous vous écrivons depuis la Révolution, récit de femmes internationalistes au Rojava ».
Et oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, on accueille Lola et Maria et vous faites donc partie des co-autrices d'un ouvrage collectif « Nous vous écrivons depuis la Révolution » qui a été écrit par 12 femmes francophones parties au Rojava. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Alors ce soir, vous serez trois femmes présentes à 18h30 à la maison de quartier de Villejean pour présenter cet ouvrage qui a été pensé et écrit collectivement en vous appuyant sur vos expériences de femmes internationalistes, mères, journalistes, militantes au cœur de la révolution du Rojava. Le Rojava étant la région autonome kurde de Syrie. Mais pour débuter, j'aimerais que l'on pose le contexte. Qu'est-ce qui s'est joué dans cette région du monde ?
Oui, alors du coup le Rojava, comme on dit, c'est la quatrième partie du Kurdistan qui est située donc sur le territoire de l'État national syrien. Et en fait, c'est un territoire qui a commencé à gagner son autonomie à partir de 2011 dans le contexte des printemps des peuples qui ont secoué le Moyen-Orient, qui ont commencé en Tunisie, puis qui se sont répandus en Syrie. Et à ce moment-là, il y a eu en fait des revendications qui ont émergé de la part des Kurdes pour avoir en fait des droits culturels et politiques qui leur avaient toujours été refusés dans le cadre du régime basse, du régime syrien de Bachar el-Assad. Et donc en fait à ce moment-là, il y a aussi énormément un rôle qui va être joué par des militants et militantes kurdes qui viennent du mouvement de libération kurde, qui vont aider en fait à organiser notamment des forces d'autodéfense qui vont combattre contre différentes factions islamistes qui sont présentes sur le territoire et notamment à partir de 2014 contre Daesh, l'État islamique. Et donc au fur et à mesure, en fait, ils et elles vont libérer des territoires, déclarer une première autonomie en 2014. Et en fait, jusqu'à 2019, il va y avoir des combats qui vont avoir lieu contre Daesh. Et le territoire qui est aujourd'hui celui de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie comprend donc cette région et plus seulement des régions kurdes qui étaient celles qui au début ont mené le processus révolutionnaire, mais aussi des régions à majorité arabe. Et en fait, c'est un territoire où il y a des Kurdes, des Arabes, des Syriaques assyriens qui sont chrétiens, des Arméniens, des Turkmènes, des Tchétchènes, des Circassiens. Voilà. Il y a différents peuples et différentes religions qui coexistent dans ce territoire et qui essayent de s'organiser selon le principe du confédéralisme démocratique, qui est donc un paradigme qui veut que ce soit les peuples des différentes régions, des différents cantons, etc., qui s'auto-organisent en fonction des différences culturelles, en reconnaissant en fait la diversité culturelle, religieuse qui peut exister, qui s'organise de manière démocratique et avec une place énorme accordée à la question de la libération des femmes, qui est centrale en fait, et c'est pour ça que quand on parle de Rojava, on parle de révolution des femmes, parce que c'est vraiment ce qui se joue aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que nous, on a voulu écrire un livre en tant que femme, pour parler de cette révolution-là.
Et tu viens de me devancer parce que justement tu parles du thème de ma deuxième question qui était tout simplement la révolution du Rojava est souvent désignée comme étant la révolution des femmes et je me demandais justement pourquoi la place des femmes est-elle si unique au Rojava.
Pourquoi en fait parce que ça s'inspire de plus de 40 ans de lutte qui ont eu lieu au sein du mouvement de libération du Kurdistan, en fait, qui s'est formé à partir des années 70 en Turquie, sous l'impulsion d'étudiants, d'étudiantes kurdes et turcs, et notamment d'Abdullah Öcalan, qui est le fondateur du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan. Et en fait, il y a énormément de femmes qui vont rejoindre ce mouvement, qui vont aussi rejoindre la guérilla qui lutte contre l'État turc dans les montagnes, et qui vont mener en interne, en fait, toute une lutte pour qu'il y ait une reconnaissance de leur place en fait et qu'elles puissent aussi exercer différents rôles dans la guérilla et dans l'organisation de la société civile et pas seulement rester cantonnées à des rôles subalternes de type les tâches ménagères etc. auxquelles les hommes voudraient les renvoyer parfois. Et donc elles ont mené en fait toute cette lutte-là, elles ont créé leur propre force armée au niveau de la guérilla, donc avec des chaînes de commandement entièrement féminines, etc. Et c'est en fait toute cette organisation-là qui a été reproduite au Rojava. Et donc il y avait déjà aussi toute une organisation souterraine de la société kurde pendant le régime de Bachar el-Assad, avec des femmes qui se réunissaient pour fêter le 8 mars ou pour discuter de leurs problèmes qu'elles avaient dans les familles, etc., cachées en allant dans les maisons, etc. Et donc, au moment de la révolution, bien sûr, il y a énormément de femmes qui avaient déjà conscience de la question de l'oppression des femmes, la nécessité de se libérer, et qui se sont donc organisées avec plein de structures différentes, et des forces armées d'un côté, bien sûr, mais aussi des structures civiles, en fait, qui sont là pour organiser les femmes dans la société.
Et du coup, Maria, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. La révolution de 2012 a instauré au Rojava une société centrée sur les femmes. Et c'est une exception dans cette région du monde, le Moyen-Orient, parce que les valeurs patriarcales et rétrogrades sont très ancrées dans la société. Et dans votre récit, dans cet ouvrage, vous invitez à découvrir la réalité des femmes au Rojava, des femmes qui s'organisent pour leur liberté, c'est ce que tu viens de dire. Mais pour qu'on comprenne un peu plus précisément comment se sont-elles organisées et comment se sont-elles coordonnées, auto-organisées ? Je crois qu'il y a des structures autonomes.
Oui, alors en fait, elles sont organisées avec tout un système d'assemblées. Parce que, en fait, le territoire en général est organisé autour d'assemblées à différents niveaux en fait, de gouvernement. Donc dans les communes, dans les districts, dans les régions. Et de la même manière qu'il y a des assemblées mixtes qui sont chargées de gérer plein de questions d'organisation de la société.
Les hommes sont présents aussi
Il y a des assemblées mixtes, du coup, d'un côté, et il y a aussi des assemblées non mixtes. Donc, enfin, on dit autonomes dans le mouvement kurde, mais donc ce serait l'équivalent de en non-mixité ou en mixité choisie ici. Et donc, en fait, elles s'organisent dans ces assemblées-là et après, elles se répartissent en fait différentes thématiques. Donc, par exemple, elles vont être organisées spécifiquement au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie. Donc, par exemple, pour l'économie, elles vont travailler la question de quelles sont les structures économiques nécessaires aux femmes pour qu'elles puissent aussi à obtenir une forme d'indépendance économique, par exemple, qui leur avait été refusée auparavant, et comment est-ce qu'elles peuvent aussi, par exemple, créer des coopératives de femmes. Donc ça va être tout le travail du comité des femmes au niveau de l'économie, par exemple. Au niveau de l'éducation, ça va être réfléchir à comment former les femmes dans la société, faire des actions de prévention sur certaines questions, comment les former à l'histoire des femmes, l'histoire mondiale même des femmes, l'histoire des femmes kurdes, les former à comprendre en fait comment se met en place le sexisme dans la société, qui n'est pas présent seulement au Moyen-Orient, hein, qui ressemble aussi à ce qui existe en Europe, et à réfléchir par exemple aussi au programme scolaire ou au programme universitaire pour réintroduire en fait toutes les questions liées à l'oppression des femmes dans ces programmes-là.
Et au Rojava, la lutte des femmes est pensée et minutieusement organisée pour défendre un monde meilleur et égalitaire, et c'est ce qu'on vient de comprendre avec ces structures. Mais on la présente aussi comme une alternative démocratique et communaliste, presque une utopie dans un territoire en guerre. Et pour vous qui n'aviez pas cette expérience-là, qu'est-ce que vous cherchiez à apprendre auprès de ces femmes qui ont parfois pris les armes ?
Je pense qu'on était toutes en recherche chez nous, au niveau politique plus général et au niveau des questions, on pourrait dire, féministes aussi en particulier. Et que c'est vrai que, c'est pas souvent qu'on va voir que en fait dans un territoire à l'autre bout du monde il y a une révolution des femmes qui se déroule et que ça a l'air d'avoir une importance aussi grande. Donc en fait ça c'était un peu le point de départ pour se dire on a envie de voir concrètement comment ça se met en place, qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de tout ce fonctionnement en autonomie qui existe quand même assez peu ici. Je crois qu'il y a une réunion en non mixité, que ce soit une non mixité de femmes ou personnes non homme cis, on va dire, ou que ce soit une mixité, par exemple, de personnes racisées, c'est quand même quelque chose qui, à chaque fois, provoque un énorme émoi. Il y a énormément de résistance, quand même, à ces formes de non-mixité ici aussi. Alors qu'elles ont réussi à bâtir toute une organisation qui est basée sur ces espaces en autonomie et qui ne sont pas seulement des espaces où on va discuter des violences dont on est victime ou ce genre de choses, mais où on va vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on veut réorganiser la société d'un point de vue qui ne soit pas un point de vue patriarcal. Et donc comment on va redéfinir en fait la manière dont on fait de la santé, dont on soigne les gens, dont on soigne les femmes aussi. On sait par exemple qu'il y a énormément de problèmes en France aussi, non, sur les questions de violences obstétriques, sur la prise en compte des maladies spécifiquement féminines, etc. Donc elles vont re-réfléchir en fait tout ce qui concerne la société dans son ensemble du point de vue des femmes.
Et justement, vous avez choisi d'être au plus près de ces femmes, donc c'est votre choix, c'est ce que tu viens de dire, et c'est votre vécu que vous décrivez dans cet ouvrage, et pour vous, il était nécessaire de l'écrire, parce que, je vous cite, il est de notre responsabilité de ne pas faire de ce temps au Rojava une expérience personnelle, mais de faire connaître le projet et la réalité révolutionnaire de celles qui nous ont tant appris. Qu'est-ce qui vous a tant bouleversé dans votre vie et que vous souhaitez faire passer ?
Wow. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi dans le livre et que c'est un peu différent pour chacune d'entre nous aussi. Enfin, il y a des choses qui sont communes, mais il y a des choses qui sont aussi particulières, des moments particuliers.
Et toi, particuliers. Personnellement
Ouais. Bah, je pense c'est que il y a cette question-là, en fait, la force de ce que signifie l'auto-organisation des femmes, leur autonomie, et qu'est-ce que ça peut apporter dans la société. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, tout ce qui concerne le processus révolutionnaire qui a lieu au Rojava, en fait, l'espèce de garant de ce processus révolutionnaire-là, ce qui fait qu'en fait, on peut avoir foi sur le fait que ça ne va pas être transformé ou voilà, perdre un peu son but en ligne de mire, c'est cette auto-organisation des femmes qui sont toujours là comme une espèce de force vive qui peut en fait venir critiquer, venir voilà, re-réfléchir les décisions qui sont prises aussi et qui ont même des droits de veto en fait dans certains espaces concernant les décisions qui sont prises par les assemblées mixtes. Et c'est aussi toute une manière en fait de s'engager, c'est-à-dire ce qui est là-bas, c'est vrai que il y a eu deux guerres d'invasion qui ont été menées par l'État turc sur le territoire du Rojava ces dernières années, une en 2018 et une en 2019. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de résister en fait, à la deuxième armée de l'OTAN qui envahit tes terres, etc. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant que militantes aussi, en termes de nécessité d'engagement, en termes de prise de responsabilité. Et aussi, une des choses qui transparaît dans le livre, et pour moi qui est très importante, c'est la manière dont ils et elles s'organisent aussi au niveau de la camaraderie, en fait, et le fait qu'il y a une camaraderie qui est vraiment très forte entre les personnes et qui a tout un effort pour réussir à développer des relations où on s'aide les unes et les autres à se construire, en fait. Et ça, c'était aussi quelque chose qui a été présent dans le processus d'écriture du livre, où on a énormément retravaillé les textes les unes des autres, en s'aidant aussi à mieux écrire, à reformuler des choses qu'on voulait dire, mais à réfléchir aussi sur nos propres mentalités, sur ce qu'on écrivait, pourquoi on l'écrivait, à essayer aussi de questionner l'orientalisme qu'on pouvait porter. Et voilà, enfin, en tout cas, il y a ce travail-là fait les unes sur les autres qui est très important.
Et pour compléter ce que vient de dire Maria, je pense que pour beaucoup d'internationalistes qui sont allés au Rojava, il y a cette notion de valeur et de redéfinir les valeurs sur quelles valeurs on veut baser nos vies et nos mouvements politiques. Et Maria vient d'en énumérer quelques-uns, c'est-à-dire l'engagement, le sens de la camaraderie, des responsabilités, comment vraiment... Et aussi cette notion de lutter qui sont assez centrales et personnellement, mais pour énormément d'autres internationalistes, je pense que cette notion de valeur est très importante et qu'on re-questionne très peu en fait dans nos mouvements en Europe, comme si on ne laissait pas cet espace de réfléchir aux valeurs.
Et donc réfléchir, c'est au centre de cet ouvrage et c'est ce qu'on comprend en vous écoutant. Et cette révolution du Rojava amène une véritable réflexion sur la parité dans la société entre les femmes et les hommes, car c'est une révolution profondément féministe avec des femmes qui ont conquis leurs droits, des droits qui sont inscrits dans un contrat social, la constitution du Rojava. Alors même si on ne peut pas tout idéaliser, d'après vous, serait-il possible d'imaginer, de transposer ce modèle dans une autre partie du monde ? Bien que la lutte n'ait pas été forcément pacifique dans le cas du Rojava.
Oui, après, la lutte n'a pas été pacifique parce qu'il y avait deux ennemis clairement identifiés, Daesh d'un côté et l'État turc de l'autre. Et donc c'est contre ces ennemis-là qu'il a fallu prendre les armes. Après, ce qui s'est passé en termes de transformation sociale dans la société elle-même, qui avait énormément aussi d'aspects patriarcaux, cette transformation qui est toujours en cours, tout n'a pas encore été gagné, on va dire, en termes de changement des mentalités. Elle s'est faite de manière pacifique, elle s'est faite par la conviction. Du coup, il y a une des choses...
L'émancipation des femmes, elles se sont émancipées de manière pacifique, c'est ça que
oui.
Tu veux dire.
Enfin, dans le sens où il y a des femmes qui se sont organisées dans les forces d'autodéfense armées, et ça produit quelque chose sur la société, de voir qu'il y a des femmes qui sont là, qui défendent le pays avec des armes, etc. Ça produit aussi des choses sur les hommes, bien sûr. Mais toutes les structures sociales qui ont été mises en place, ces institutions des femmes, dans la santé, etc., tout ça, ça s'est fait de manière pacifique. Et ça s'est fait par un travail de conviction. Et c'est ça aussi quelque chose qui manque peut-être ici, la vraie volonté d'avoir des espaces de formation collectifs pour les femmes. Mais aussi, en fait, de faire un travail d'éducation auprès des hommes. Et pour les femmes au Rojava, ça, c'est très clair qu'en fait, elles ont un double travail, dans le sens où si c'est elles qui portent en elles des propositions qui vont permettre d'émanciper la société, elles doivent aussi faire tout ce travail d'éducation des hommes. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on doit réfléchir aussi à nous, comment on peut le mener ici. Et je pense que c'est totalement transposable, dans le sens où, en tout cas, ces espaces, ces manières de construire l'autonomie, d'avoir des espaces où les femmes s'organisent entre elles, c'est quelque chose qui manque ici et qui devrait être plus posé aussi, justement pour réfléchir aux différentes questions sociales qui sont des problématiques aujourd'hui dans la société. en réfléchissant par exemple la santé et en essayant en fait de s'organiser entre différentes des militantes qui vont travailler, je sais pas, au planning familial, des professionnels de santé, des patientes, et d'essayer en fait d'avoir des espaces pour repenser les manières dont on veut que la santé soit mise en place, par exemple.
Et donc, tu viens de le dire, ce sont des femmes qui se sont affranchies pacifiquement. Et nous, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans notre vie ici ? Qu'est-ce qu'il y a à récupérer, à transposer chez nous ?
Alors moi déjà, j'ai l'impression qu'au sein du Rojava, les femmes, comme disait Maria juste avant, il y avait une réelle menace directe qui venait soit de la part de la Turquie, soit de la part de l'État islamique. Du coup, l'auto-organisation des femmes et surtout l'auto-organisation armée s'est faite de manière... Il y avait un ennemi commun, non ? Un objectif commun et un ennemi commun. Et peut-être, nous, ce serait aussi arrivé à redéfinir quels sont nos ennemis. C'est vrai que c'est peut-être plus compliqué parce qu'on n'a pas en face de nous une armée, la seconde armée de l'OTAN qui nous attaque. Mais ces attaques-là, elles sont beaucoup plus subtiles, elles sont autrement. Et peut-être l'une des choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer, c'est justement arriver à redéfinir nos ennemis communs, et à essayer de lutter ensemble et essayer de trouver, même si certaines stratégies peuvent être différentes, mais comment en fait arriver à coordonner toutes ces différentes stratégies dynamiques pour en fait réellement viser l'ennemi.
Et de quel ennemi voulez-vous parler ?
Les violences patriarcales, le capitalisme, le racisme, enfin l'État, le...
On comprend un peu mieux le message et aussi ce que nous, on peut tirer collectivement de cette révolution au Rojava. Et dernière question, quelle est la situation maintenant là-bas, dans cette région du monde ?
Alors actuellement, la situation est... Et assez complexe parce qu'il n'y a plus de ligne de front et de combat, de guerre en fait, on va dire, constante. Il y a une guerre qui se passe plus de manière, on appelle ça une guerre de basse intensité, donc c'est-à-dire avec des attaques de drones de la part de la Turquie sur ou des structures militantes ou sur des civils au sein du Rojava ou de l'administration autonome. Il y a aussi une guerre de la Turquie qui est faite à travers l'eau, donc en contrôlant le flux des eaux du Rojava, ce qui apporte de réelles conséquences économiques au niveau de l'agriculture et aussi des conditions de vie, et aussi sur toute l'électricité, car sur l'Euphrate qui justement borde le Rojava, il y a 3 barrages hydroélectriques. Il y aurait énormément de choses à dire sur la situation actuelle. On parle en IDP, enfin en déplacés internes. On parle de 750 000 personnes qui habitent soit dans des camps, soit qui ont eu la possibilité de rejoindre leurs familles dans d'autres villes. Mais malgré en fait une menace en fait constante, et le Rojava est tout le temps en train de se construire. Et justement, lors de la dernière invasion en 2019, beaucoup de personnes disaient « Ah, le Rojava est mort ». En fait, le Rojava n'est pas mort tant qu'il y aura en fait ces militantes qui seront là tous les jours à continuer à se battre ou à aller dans les structures pour femmes, pour développer tout ce système-là. Le Rojava ne sera pas mort, et tant qu'il y aura en fait la mentalité révolutionnaire qui continuera au Rojava, cette révolution ne sera pas morte.
Merci beaucoup pour ce beau message, et merci à vous deux d'être venus nous parler de votre ouvrage coécrit avec 12 autres femmes. Nous vous écrivons depuis la Révolution, récit de femmes internationalistes au Rojava, qui sera présenté ce soir à 18h30 à la Maison de quartier de Villechamp.
Merci à vous.
Merci à toutes les deux d'être venues au micro de l'Inattendu sur Syllabe.